Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez connu la vague du succès provocateur avant d'élargir votre horizon et d'en affronter d'autres qui vous permettent, à travers des films et des livres, de demeurer plus que jamais dans la note. Oh. Bonjour Antoine.
Bonjour mon cher jumeau.
Oui, c'est vrai qu'on a, la même date d'anniversaire, le 4 juin.
Sauf que je suis né 10 ans... En même temps que vous dites.
En même temps que vous, voilà. Ça, on n'a pas d'âge. Alors, il y a un nouveau livre qui s'appelle L'Escale en Nouvelle-Zélande, qui paraît chez Gallimard, et on va en parler, mais une fois de plus, entre deux voyage autour du monde, on a le plaisir de vous accueillir au micro de Sud Radio, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois, mais vous avez un tel parcours que ça mérite d'évoquer des dates de ce parcours.
Eh bien oui, ça ne manque pas, de variété en plus, parce voilà. Que j'ai dû exercer 27 métiers différents,
oui.
Sans parler des hobbies, hein, juste oui. les métiers pour lesquels on est payé, 27 différents. On va voir lesquels vous abordez dans ce...
Eh bien on va commencer avec le 22 janvier 1971, c'est votre retour comme co-animateur de Daniel Gilbert dans Midi Magazine.
Ah oui, et tout à l'heure, hier j'ai regardé une émission, enfin un reportage, sur un des frères ennemis.
Oui, André Gaillard.
André Gaillard, oui. Voilà. L'autre a disparu, oui. Malheureusement. Et je revoyais avec Daniel Gilbert, on s'était rencontré avec les frères ennemis dans l'émission que j'animais en remplacement pendant quelques semaines de Jacques Martin. Et avec les frères ennemis, on avait fait un spectacle ensemble avec... Daniel, les frères ennemis et moi, sur scène, pas le petit journal, ça s'appelait...
À la tête de l'art.
La tête de l'art, voilà. Et je réfléchissais, je suis venu à pied depuis Boulogne, là, je suis de passage. Bon, je suis bloqué en France quelque temps, vous savez pourquoi. Ouais. Et mon bateau est bloqué en Australie.
Oui.
Et là, donc, j'en profite de faire des grandes balades à pied, vivre à la campagne, et à Paris, c'est la campagne aussi. Donc, je suis venu à pied jusqu'ici, et je suis passé près de la maison de la radio, qui est toujours là, au même endroit, bien sûr. Et j'ai réalisé que c'était le seul moment de ma vie où j'étais payé pour me lever tôt le matin, pour être présent dès 9h du matin pour les répétitions de Midi Magazine. Voilà. C'est la seule fois de ma vie que j'ai été un salarié régulier.
Voilà. Il se trouve que vous êtes arrivé dans cette émission parce qu'un jour, vous déjeunez avec le producteur Georges Folgoas, car vous voulez faire un show Antoine qui ressemble au show de Sacha Distel qui vous fascine.
Ben oui, j'adorais les shows. À l'époque, il y avait les Carpentiers, et puis il y avait Sacha Distel, quoi, réalisé par Folgoas.
Oui.
Et moi, ce que faisait Sacha, ça me plaisait beaucoup. J'avais envie de faire comme ça. Il y a pas de comédie musicale. J'avais pas encore repris une opérette, etc. Ça tournait un peu en rond les tours de chant, quoi. Et donc, j'avais envie de faire un spectacle comme ça. Et donc, Georges Folgoas m'appelle pour m'inviter. Je me dis, ah ben, je vais lui proposer ça, voilà. Et puis, pas du tout, il m'a proposé un truc que j'avais pas prévu une seconde de faire, c'est d'animer, de remplacer Jacques Martin, qui avait sa place bien marquée, hein, dans le Midi Magazine.
Bien sûr.
Et Midi Première.
Et pourquoi avait-il pensé à vous?
Eh ben, parce que j'animais déjà pas mal de choses. À l'époque, je blaguais aussi avec Michel Drucker, parce que j'aurais pu devenir un petit peu, peut-être, Michel Drucker, parce que j'animais les dimanches.
Oui.
J'animais les dimanches avec Raymond Marcillac, qui dirigeait, et c'est avec Denis Favre aussi.
Voilà. Alors, il se trouve que le Sacha Show, c'était né à Rade de Luxembourg, parce que, en fait, les Carpentiers avaient croisé Distel débutant. Ils avaient eux-mêmes vu à New York un show de télévision. Ils ont voulu l'adapter en France, et c'est comme ça que la magie des Carpentiers a commencé. Vous, ça a été la magie de Daniel Gilbert, qui était au début de sa gloire, qui n'était pas encore la grande duduche dont on parlait.
Qui était déjà extrêmement populaire, quand oui. même. C'était en 1970, la première fois, oui. je pense. Elle était déjà très, très populaire, très aimée du public.
Je me souviens d'un festival à Deauville du cinéma américain, arrive pour une projection Roger Moore, le public applaudit, arrive Robert De Niro, le public applaudit, arrive Daniel Gilbert, le public se précipite sur elle pour un autographe.
Ben, oui, ça ne m'étonne pas, vraiment, c'était un bonheur de travailler avec elle, parce qu'elle a toujours été une grande, grande professionnelle.
Voilà.
Extraordinaire, très grande professionnelle.
Et vous l'avez même fait chanter.
Excusez-moi, monsieur Antoine, pourquoi quand une jeune fille se marie le soir des noces? Toujours sa maman.
Bah voyons.
Voilà. Ça aussi, c'est. Au départ, c'était une chanson qui s'appelait, excusez-moi, Madame Michel ou Mademoiselle Michel.
Madame Michel, parce oui. que c'était une autre aventure, une autre période de ma vie. J'avais été engagé pour animer la reprise d'un spectacle au
Gaumont-Palace.
Voilà, Gaumont-Palace. Il y avait le film qui passait, et puis avant, il y avait des chevaux, des éléphants, des cascadeurs, des danseuses, des danseurs, et moi, j'animais tout ça. C'était assez fascinant. Et avec une jeune fille qui venait du Casino, Casino de Paris, quelque chose comme ça, oui. Du Moulin Rouge. Et qui s'appelait Michel Frascoli. Et donc, la chanson avait été écrite pour ce spectacle, et puis ce spectacle, malheureusement, n'a pas marché. Alors, je l'avais transformé avec Daniel Gilbert, et on s'était bien amusés.
Oui, parce qu'en fait, ce spectacle, c'était au Gaumont Palace, qui était une des plus grandes salles de spectacle de Paris.
Ah oui.
Et d'ailleurs, Sheila, à 12 ans, a commencé comme danseuse sur la scène du Gaumont Palace. Elle a été démolie et remplacée par un grand magasin. Mais c'était
qui ça, Sheila?
Non, le Gaumont Palace, mais c'était une scène mythique.
Ah oui, c'était une scène mythique, et j'ai un petit peu honte d'avoir été... d'avoir participé à la fin de cette salle, parce que cette salle aurait dû être sauvée comme le Rex a été sauvé.
Voilà.
Et malheureusement, il m'a semblé que les propriétaires, la Gaumont, n'avaient pas envie que notre spectacle fonctionne, et donc il n'a pas fonctionné.
Au départ, l'idée du spectacle, c'était de concurrencer le Radio City Music Hall, qui est la plus grande salle de New York, avec des roquettes.
Peut-être pas de concurrencer, mais de s'inspirer des roquettes. Moi, j'avais vu les roquettes, j'avais fait la queue pendant des heures et des heures pour voir quand j'étais gamin, à l'âge de 10 ans ou 6 ans, 8 ans, pour voir les roquettes. Alors imaginez-vous refaire la même chose à Paris, c'était génial. Mais bon, ça n'a pas été un succès, c'est dommage, mais quelques beaux souvenirs, entre quelques souvenirs bien marrants, j'arrivais à cheval au galop dans la salle, avec une diligence, il y avait des éléphants, il y avait des cascadeurs qui descendaient des cintres, qui dégringolaient et tout, et je dansais comme un malade, moi je dansais comme un fou sur Hello Dolly et un tas de choses, quoi. C'est un grand souvenir.
Voilà. Et le Radio City Music Hall, donc il y avait 6000 places, il y avait des grandes orgues qui sortaient des murs, donc les roquettes étaient des danseuses, comme les danseuses du Moulin Rouge, et Broadway, vous l'avez découvert finalement, Antoine, grâce à votre père, et vous l'avez chanté. Dans les années d'avant-guerre, mon père se prenait pour Fred Astaire.
Et moitié en français, moitié en italien.
Oui, exactement. Mais parce que vous avez beaucoup de succès en Italie. Et c'est vrai que la découverte de Fred Astaire et de Top Hat, vous la devez, Antoine, à votre père.
Bah oui, mon père, il dansait des claquettes. Il avait gagné un jour un concours de claquettes en dansant sur un guéridon. Alors ça m'avait inspiré cette chanson, et ma mère elle trouvait pas ça très... Elle aimait pas beaucoup ça, mais lui il adorait ça, et il me parlait de Fred Astaire et tout ça, et un jour, de ces mêmes années 70, il se trouve que les films de Fred Astaire sont redevenus à la mode, et passaient sur... Il y en a un qui passait, Top Hat, qui passait sur un cinéma de l'avenue de l'Opéra. J'y suis allé et ça a été un coup de foudre. J'ai adapté des chansons, j'ai repris des choses. Et lorsque j'ai repris Dédé, l'opérette de Maurice Chevalier, c'était toujours dans l'idée de danser un peu comme ces gens que j'admirais tellement.
Oui, et en plus, Fred Astaire, avec ce film et avec King Kong dans un genre différent, ont sauvé la production de la RKO de la faillite.
Ah oui.
Sinon, elle aurait dû fermer cette grosse production américaine. Et puis, il y a une autre star de la chanson, une autre star de Broadway que vous avez rencontrée, et de l'humour américain, et c'est Bob Hope. Et un jour, vous avez chanté une chanson avec lui, enfin, il était dans le décor.
Voilà, il était dans le décor, oui.
Qu'est-ce que tu as mis dans le café pour qu'il me fasse tant d'effet? Je sens quelque chose de
Alors ça, c'est une anecdote incroyable, vous croisez Bob Hope. La grande star des humoristes américains.
Voilà. Et donc, je me rappelle plus, c'était peut-être au Folies Bergères, il me semble.
Oui.
Le spectacle et tout, c'est un spectacle unique. Et Bob Hope, j'étais allé l'accueillir à l'aéroport, j'ai une photo où je le pousse sur le caddie des bagages, comme ça, et je le pousse pour rentrer dans Paris. Et donc, on arrive là-bas pour répéter. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec Bob Hope. J'allais faire mon spectacle, mais on voulait faire quelque chose ensemble. Il me dit, écoutez, faites-moi confiance. Trouvez-moi une chanson assez mélodieuse, assez harmonieuse. On prend donc celle-ci, qui est un de mes succès italiens. Qu'est-ce que t'as mis dans le café? Quand j'avais mis sonner le café. Et il dit, vous inquiétez pas. Il me dit, vous tenez debout, et puis c'est tout, vous chantez simplement, quoi. Et lui, il arrive derrière moi. Il se colle derrière moi. Et il me dit, vous mettez vos bras derrière votre dos, comme ça. Et il fait mes bras, quoi. C'est-à-dire qu'il est derrière moi, il fait mes bras comme si c'était moi qui faisais des mouvements. Alors, il fait des... ça se voit pas beaucoup à la radio, mais il tend les bras pour des... les gestes d'un chanteur lyrique, quoi, comme ça et tout. Un chanteur lyrique un peu énervé. Et comme ça et tout. Et puis, il me prend ma pochette, il veut des boutons de ma chemise et il m'ouvre la braguette. C'est à ce jour le seul homme qui m'ait ouvert la braguette.
Et puis, bien sûr, à votre répertoire, il y a une chanson à laquelle on ne peut pas échapper, puisque des années, des décennies plus tard, on nous en parle toujours.
Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, t'en vas dans ce que tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça
coûte. Franchement, Antoine, est-ce que vous pensiez que tant d'années après la chanson de 65-66, on parlerait encore des élucubrations?
Ah bon, c'est moi qui l'ai faite, cette chanson?
Oui, oui.
Je m'en rappelais plus bien. Non, je pensais pas une seconde. Je pensais vous êtes très au courant de comment cette chanson elle est née.
Oui.
Je crois que de toute façon les en toute immodestie, les grandes chansons, c'est pas nous qui les écrivons. C'est quelque part une créature pas céleste, mais un inconscient quelque part. Je sais que quelques-unes des chansons les plus connues, les plus grands succès, comme Yesterday. Pour être tout à fait immodeste, comme Yesterday ou Satisfaction, sont des chansons qui ont jamais été écrites. Les gars se sont réveillés. Là, c'était Paul McCartney. Il s'est réveillé avec cette mélodie en tête, la chanson entièrement écrite. Pas les paroles, mais la musique entièrement écrite avec le pont, l'intro et tout. Pareil pour Satisfaction. C'est Keith Richards qui s'est réveillé avec la musique. Et là-dessus, Mick a fait les paroles, quoi. Donc, cette chanson, un matin, je me suis réveillé. Il y avait à la radio, j'étais dans un petit studio du Marais, qui était pas du tout un quartier à la mode à l'époque. Et on me prêtait un studio où j'allais suivre mes cours à l'école centrale. Et il y avait de l'accordéon à la radio. Et j'écoute l'accordéon, je dis, oh là, ça me fatigue. Et je me retourne, j'éteins la radio, je me retourne vers le mur. D'abord, je vais dormir encore, je suis pas en retard encore pour l'école. Et je me dis, mais ton accordéon me fatigue, Yvette. Ton accordéon me fatigue, Yvette. Si tu jouais plutôt de la clarinette, tac, je me suis réveillé tout d'un coup. Et en un quart d'heure, j'ai écrit 4 couplets de la chanson. Quoi.
Et ben voilà.
Voilà, c'était. Et puis, j'imaginais vraiment pas une seconde que, comme on parlerait encore, 60 ans, bientôt 60 ans après.
Voilà. Et il s'est passé aussi d'autres choses. Et une date importante, qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante, c'est le 10 novembre 1921. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine, en escale en France et à Sud Radio, avec ce livre Escale, mais en Nouvelle-Zélande, dont on va parler tout à l'heure chez Gallimard. Et puis, alors une date qui ne vous concerne pas directement, c'est le 10 novembre 1921. Vous n'êtes pas si vieux que ça. Et il y a une opérette qui est créée avec cette chanson que vous allez reprendre.
Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je n'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera.
Une opérette avec Maurice Chevalier, d'Albert Villemetz, et qui a été jouée plus de 900 fois jusqu'en 1944. À l'époque, Chevalier revient de Londres. Il est une star parce qu'il a été le premier à porter un smoking et un chapeau de paille. Et il est le Français le plus connu. Et c'est pour ça qu'on lui prouve cette opérette que vous allez reprendre, Antoine.
Oui, nous, on l'a joué peut-être une centaine de fois.
Oui.
C'est peut-être le spectacle que j'ai fait le plus souvent, le plus fréquemment dans ma vie. Mais c'était une chose qui me tentait beaucoup, quoi. Il n'y avait pas, encore une fois, il faut voir qu'à l'époque, c'était 70-71, les comédies musicales n'existaient pas. Il n'y avait pas eu cet énorme engouement qu'il y a eu par la suite, grâce à Michel Berger, Starmania et tant d'autres choses ensuite. Maintenant, il y a des grands budgets alloués à des comédies musicales. À l'époque, ça n'existait plus du tout, quoi. On faisait des tours de chant, rien d'autre, quoi. Et moi, ça me tentait beaucoup. Et il n'y avait pas de nouvelle œuvre. Donc, je suis penché, j'ai cherché. J'ai retrouvé un gros cahier des écrits de Villemetz, Sylvain, Christinet, etc. et tout. Et quand j'ai vu... Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, que mon père me chantait tout le temps, lui qui était fan de Maurice Chevalier. Je lui ai dit, ah, il faut que je fasse ça. Voilà. Et donc, on a appelé Jean Le Poulain, le célèbre comédien et metteur en scène, qui a mis en scène. C'est sa nièce Corinne qui a joué avec nous. Et puis, un jeune danseur anglais qui s'appelle James Sparrow. Et des jolies danseuses, et on s'est bien amusé.
Voilà. Alors, il y a d'abord eu une tournée
qui
a très bien marché.
La tournée a très, très bien marché. On aurait pu et dû peut-être continuer la tournée à travers la France. C'était plein partout. Et puis après, on est venu le jouer à Paris. Et puis ça a moins bien marché, là. Ça a été...
Parce que l'opérette était considérée comme ringarde, il n'y avait pas la comédie musicale.
Voilà, c'est ça, voilà. L'opérette, c'était... Nous, on avait modernisé la musique, mais du coup les seuls puristes qui suivaient l'opérette, ils trouvaient que c'était trop modernisé, quoi, et ainsi de suite. Donc, mais c'est un très bon souvenir quand même. Je suis bien marré. J'ai encore les costumes, tout ça et tout.
Vous étiez en avance sur votre temps, peut-être ?
Ben, peut-être, oui, en avance ou en retard, c'est pas grave. On est...
Et Maurice Chevalier, vous l'avez rencontré, Antoine ?
Ah ben, Maurice Chevalier, il a écrit la préface du programme de mon premier Olympia, en 1966, avril 66. Il a écrit, il rentrait d'Amérique et il voit, j'étais inconnu 2 mois avant, 3 mois avant, et tout d'un coup, j'étais en vedette à l'Olympia. C'est quoi ça? Et donc, il était présent à l'Olympia. Il a toujours assisté à mes spectacles à l'Olympia. Et il a tenu à écrire la préface du programme.
Et c'est quelqu'un qui vous a donné des conseils, qui a cru en vous?
Ah oui, et puis je l'ai dessous. Il m'a toujours suivi. Il est toujours venu à mes spectacles. Et puis, j'avais sympathisé avec lui, avec son secrétaire, le couple qui s'occupait de lui, François Valls, c'est tout, qui l'assistait à la fin. Donc j'allais souvent chez lui et chez eux.
Oui, il avait une propriété à Marne-la-Coquette, où il y avait dans le jardin une énorme scène pour tourner des séries américaines qu'il souhaitait faire et qu'il n'a pas pu faire à la fin de sa vie. Alors, un autre point commun avec Maurice Chevalier, c'est-à-dire que vous avez participé au gala dont il a été la star, qui s'appelle April in Paris, qui est un grand gala mondain à New York, Antoine.
Oui, April in Paris, j'y suis allé, mais alors c'est pas un très bon souvenir, là, parce que j'étais parti voir s'il y avait des possibilités de chanter, de faire quelque chose en Amérique, quoi. Et là... Ça s'est plutôt bien passé, mais c'était difficile, quoi, parce qu'il y avait des syndicats, il y avait des complexités, c'était pas, j'en suis revenu, je me suis dit, si je vais me battre pendant des années pour essayer de faire en Amérique le succès que j'ai obtenu en France, c'est peut-être pas la peine, d'autant que cette année-là, j'avais en tête un rêve qui se concrétisait, qui était de partir en bateau, quoi. Voilà. Donc, le projet d'Amérique ne s'est jamais finalisé.
Quand vous aviez vu Aznavour mettre des années à réussir en Amérique, ou Beko, qui a mis des années en n'étant pas payé pratiquement pour être vedette là-bas, ça ne vous tentait pas?
Non. La plus grande vedette française qui a eu un très grand succès en Amérique, c'est quand même Petula Clark.
Oui. Enfin,
vedette française-anglaise, quoi. Et elle fait un très grand succès là-bas.
Il y a eu un scandale d'ailleurs, parce qu'un jour, et on ne peut pas imaginer aujourd'hui, elle a touché le bras d'Harry Belafonte à la télévision.
Oui, ça
c'est... Quand sa fille est censurée.
C'est inouï, ça. Elle était dans une émission qui a dû se passer, je ne sais pas la date, non, ça doit être vers 70, oui, par là, à peu près. Une très grande émission de la télévision américaine. Et à un moment, en chantant un duo avec Harry Belafonte, elle a touché le bras d'un noir, vous vous rendez compte? À l'époque, c'était inadmissible, c'était inenvisageable. Et le producteur a dit, on va couper cette séquence. On va couper cette séquence, ce passage-là, quoi. On va couper ce plan-là. Et c'est Petula et son mari, Claude Wolff, qui ont dit non. Ou vous laissez cette scène, ou vous supprimez la chanson entièrement. Quoi.
Voilà. Et elle est restée.
Et
à cette époque, vous êtes revenu en France et vous avez eu du succès avec une autre chanson, Antoine. Cette chanson populaire est l'un de vos plus grands succès, et pourtant on l'a un peu oublié, Antoine.
Tout à fait oublié. C'est une chanson. C'est marrant parce que je suis retombé il y a 3 semaines sur un tournage. C'est les mystères des archives et d'Internet, c'est qu'on retrouve des tas de choses qui avaient disparu, quoi. Et donc Ratata, il n'existait aucun enregistrement public, quoi, de la chanson, quoi. Il y avait une scène sur Patin à glace où j'avais animé un télédimanche où je faisais Ratata. Il y avait le Scopitone, mais il n'y avait pas une scène. Et c'est un truc où j'étais... Un soir, j'animais une fête à Cambrai, qui était la kermesse de la bêtise,
oui.
Où il y avait tous les soirs des grandes stars. Il y avait Johnny, il y avait Sardou, il y avait Claude François, tout le monde qui venait là. C'était, C'était une sacrée fête, sacrée opération. Et moi, ben, j'avais chanté Ratata dans le spectacle. J'animais tout le spectacle, du début à la fin. Et j'avais chanté Ratata et j'ai retrouvé cette chose-là, quoi. Donc, si vous avez, vous voulez voir des images souvenirs comme ça sur notre site internet, c'est notre site à nous qui c'est antoine.tv, comme la télévision, antoine.tv. Oui. Et vous avez un compartiment archive où il y a des centaines de vidéos qu'on a trouvées comme ça. Et il y en a des marrantes. Alors, d'Italie, de Belgique, de France, de partout, quoi.
Eh ben, vous êtes allé encore plus loin avec ces voyages. Et ces voyages, curieusement, ça a démarré un jour. Vous vous êtes dit, ben, j'ai envie de louer un voilier pendant 3 jours. Et vous êtes parti vers les îles de Lérins.
Voilà, c'était mon... J'avais déjà fait du bateau. En 69, j'avais découvert le bateau. En 1969, j'avais découvert le bateau presque par accident.
Oui.
Parce que j'avais loué une maison, il y avait un petit bateau dans l'inventaire. Et puis, ça m'a plu. Et donc, chaque été de 69, 70, 71, on faisait un peu de navigation. Et puis, en 73, ça a été la première fois que je suis parti seul sur un bateau. D'abord donc vers les îles de Lérins, une petite balade pour tenter, voire 2-3 jours. Puis ça m'a plu. Et puis j'ai loué un bateau en Bretagne Sud. Et là, c'était une autre aventure. En octobre, c'était des tempêtes, du mauvais temps. Je me réfugiais dans un port et tout. Mais c'était un bon début, quoi. Et puis, ça m'a confirmé dans mon projet de rêve de partir voyager. Ce que je pensais faire pendant 5 ans, et ça fait bientôt 50 ans que ça dure, quoi.
Voilà. Vous avez un jour à La Rochelle, vous débarquez, il y a un salon nautique, vous allez voir le port des Minimes, et ben tout de suite, vous avez dit, je veux un bateau, il faut que je trouve un bateau.
Ben, c'est-à-dire que j'avais ce projet de partir, mais je savais pas, j'avais pas le mode d'emploi. Et puis, les hasards sont incroyables, quoi. En faisant une pause, j'étais en tournée, en faisant des galas, et dans un bistrot, la nuit, il y avait un journal posé sur le comptoir, qui était plié, et on voyait écrit, premier salon nautique à flot, le premier salon de la navigation à flot à La Rochelle, le premier grand pavois. J'ai dit au producteur qui m'emmenait en voiture, qui allait me ramener à la gare de Bordeaux, j'ai dit non, tu me déposes à un endroit, je prends un train pour La Rochelle. Je prends un train pour La Rochelle et je me suis pointé là-bas. Et dans la journée, j'ai rencontré des tas de gens, l'architecte qui m'a fait mon bateau ensuite, le constructeur des mâles, y compris des navigateurs qui venaient de boucler un tour du monde, les Damiens. Et ça a été en une journée, grâce à La Rochelle, j'ai eu vraiment toutes les clés pour le voyage, ce voyage que j'ai démarré quelques mois, moins d'un an plus tard.
Oui, et personne ne croyait à un voyage aussi long. La presse, à l'époque, disait, il part pour quelques mois, il va revenir.
C'est-à-dire que la presse, il y avait... Il faut voir comment était la presse. Il y avait la presse à scandale qui, de toute façon, disait n'importe quoi. On n'avait pas les médias d'aujourd'hui, etc. C'était pas pareil. Mais il y avait la presse à scandale, c'est-à-dire France Dimanche, ici Paris, qui disait n'importe quoi. Et puis, il y avait Jean Salut les copains, où tout le monde est beau, tout le monde était gentil, quoi. J'adorais ça. Vous avez peut-être vu récemment une émission souvenir de Salut les copains, oui, qui est parue, là, avec des tas d'interviews de gens comme ça. Et donc, c'était une belle aventure. C'était la presse, on va pas se pencher trop sur
non,
la presse.
Non,
sur
la, non, sur non,
la,
on va parler...
la presse en question, elle avait tendance à dire, si on voyait Adamo devant un bateau, il disait Adamo part faire le tour du monde, c'est-à-dire voilà. Il disait n'importe quoi. Oui. Donc moi, quand je le disais, personne n'y croyait, quoi.
Enfin...
Et les marins de Marseille, ils m'ont dit, Antoine, tu vas voir, la mer, elle va te faire venir les cheveux blancs. Elle va te faire venir les cheveux blancs.
Ah ben, vous avez continué, on en parle avec une autre date, le 11 novembre 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Antoine.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine. Escale en Nouvelle-Zélande chez Gallimard, c'est un livre dont on va parler tout à l'heure. Mais là, je reviens à une date, le 11 novembre 1987. Ce soir-là, alors que ce n'est pas une émission de variété, vous chantez quand même, c'est dans Thalassa et vous chantez ceci. C'est vrai que cette chanson a marqué une époque et elle était en avance sur son temps, Antoine.
Elle était en avance sur son temps. Quand j'ai commencé à l'écrire, c'était pas une chanson sur l'environnement, c'était un petit peu un cri de, pas de colère, mais un cri de désapprobation, parce que dans un pays lointain, on avait interdit l'accès de certaines baies à des bateaux parce qu'on allait y faire des cultures de poissons et d'autres choses et tout, on n'avait plus le droit d'y rentrer, quoi. Alors, j'aimais pas l'idée qu'on mette des frontières, des barbelés sur les lagons, etc. Ça me plaisait pas du tout. Donc, j'ai commencé à écrire cette chanson, ça m'est venu à l'esprit comme ça, comme les chansons, c'est pas très bien d'où ça vient, hein. Et puis, ça a plu, la maison de disques a beaucoup aimé, donc on a fait un album autour de ça. Il y a des enfants qui sont venus l'enregistrer. Et depuis, des centaines d'écoles, de chorales, de groupes ont repris la chanson. J'en reçois régulièrement des petites vidéos, des enregistrements. Si vous avez vous-même dans vos parages, votre école ou un club ou une chorale, n'importe quoi, faites-le. Enregistrez cette chanson. Sur notre site, vous trouvez un lien pour aller télécharger toutes les paroles, la partition, le playback et tout gratuitement. Et l'idée, c'est tout simple, hein. C'est que plus il y a de personnes, en particulier des enfants qui chantent cette chanson, qui l'apprennent, plus il y a de chances qu'un jour, ils ont, sans forcément aller à la COP26 ou je sais pas quoi, appris cette chanson, un jour, ils auront peut-être à choisir entre protéger la mer ou ne pas la protéger, et ça fera dans leur tête, touchez pas à la mer. Ah bon, ils diront, écoutez. Et ils feront le bon choix, voilà. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle « Semer des graines d'utopie ». C'est un peu ma mission sur Terre.
Oui, mais en même temps, cette chanson vous a dépassé, puisque l'écologie est arrivée, et qui finalement est devenue un symbole de l'écologie, sans que vous le pensiez.
Bon, c'était déjà une préoccupation à l'époque, oui. Parce qu'on voyait déjà en bateau, je voyais déjà que des endroits comme au large d'Athènes, par exemple, dans certaines parties de la Méditerranée, étaient déjà infesté de plastique, de sacs en plastique, de machins qui flottaient et tout. C'était, je prétends pas avoir amélioré la situation, mais encore une fois, semer un petit peu une graine d'utopie. Et puis,
oui.
Et j'encourage totalement ceux qui en sèment et qui les cultivent et qui les entretiennent de nos jours.
Oui, mais à l'époque, quand vous en parliez, et ça intéressait personne, personne ne pensait que ce plastique dans l'eau serait un jour un problème.
C'est vrai. J'ai été invité pour la première fois, c'est une émission de TF1. C'était PPDA qui présentait, et il y avait des invités qui parlaient de l'environnement et tout ça. Ouais, j'étais arrivé avec un sac d'une grande chaîne de supermarché, un sac en plastique. J'expliquais, j'ai avoir trouvé ça sur une plage dans un pays lointain très beau et tout, et que le monsieur qui avait donné son nom à sa chaîne de supermarché pourrait éviter de laisser traîner sa carte de visite par terre, ouais. Sur les plages.
Alors ça, c'est effectivement une chanson qui a fonctionné à une époque où vous voyagez beaucoup. Votre bateau en 81, c'était Voyage.
Alors le deuxième bateau, le premier s'appelait Home jusqu'en 80. 81, un petit sloop qui s'appelait Voyage. Et depuis 89, un catamaran qui s'appelle Banana Split.
Et à chaque fois, vous avez le privilège, Antoine, de choisir vos destinations. Par exemple, l'hiver, à l'époque, c'était les Canaries.
Voilà, l'hiver, les Canaries, c'était quand on quittait quand on quittait la France, qu'on s'était attardé au mois de septembre, qu'il commençait à faire froid, et ben aux Canaries, on retrouve, et plus encore aux îles du Cap-Vert, on trouvait pas encore les tropiques, mais ça approchait déjà, quoi.
Oui, et en même temps, la navigation, par n'importe quel temps, vous l'avez appris sur le terrain, vous n'avez pas pris de cours.
J'ai pas pris de cours, non. Simplement, les premières années, quand on louait un bateau avec des copains, parce qu'on devait partir avec plusieurs copains, puis les copains, ils ont tous eu des projets différents, donc j'ai réalisé qu'il fallait que je le fasse tout seul, quoi. Et donc, on partait en croisière en prenant un skipper qui avait pour mission de nous apprendre la base, quoi. Puis ensuite, pendant des années, pendant 2-3 ans, j'avais le guide des Glénans, et j'apprenais, je dirais pas tout par cœur, mais je l'ai potassé dans les loges en attendant de mon tour d'aller chanter, je potassais la navigation astronomique et tout ça, quoi.
Et à bord, vous avez continué à travailler parce que vous avez beaucoup, beaucoup écrit, que ce soit des chansons ou des livres, à bord de vos bateaux, Antoine.
Oui, bon, j'ai encore enregistré pas mal d'albums, hein, y compris en 80, 84, 80, jusqu'en 88. Mais également les livres. Les livres, je suis arrivé à Rio de Janeiro, il y avait une lettre qui m'attendait d'un éditeur que j'avais rencontré le jour même, dont je parlais tout à l'heure, au Grand Pavois de La Rochelle.
Oui.
Et quand je disais que j'avais eu toutes les clés ce jour-là, j'avais un message, une lettre du directeur des éditions Artaud, qui disait « Ah ben, on aimerait publier un livre de vous, raconter vos voyages ». J'ai dit « Pas un livre, mais trois ».
Voilà.
Et donc, j'ai publié trois livres chez Artaud, et puis plein d'autres ensuite chez Artaud. Et puis, actuellement, j'en suis à peut-être une quarantaine de livres en tout publiés entre Flammarion et Gallimard depuis 30 ans.
Mais justement, au départ, c'était pas le but. Vous ne pensiez pas écrire des livres, Antoine ?
Ben, je pensais pas, mais j'ai écrit pour moi. J'ai écrit pour moi parce qu'en bateau, on a des heures et des journées entières et des nuits. Et à l'époque, il n'y avait pas d'internet, on n'avait aucun moyen de communiquer avec le reste du monde. Donc j'étais en tête à tête avec des pages blanches, et je me suis mis à écrire, et au bout de la première année, quand je suis arrivé à Rio, au bout d'à peu près un an de navigation, j'avais déjà écrit des milliers de pages, quoi. Et j'avais déjà écrit des quantités de pages de récits de voyage, quoi, dont je n'utilisais qu'une petite partie.
Voilà. Et voyager ainsi, combler votre bonheur d'être solitaire, car vous étiez. Et, au fond de vous-même, vous êtes un solitaire, Antoine.
Bon, moi je suis un solitaire. J'ai la chance d'avoir trouvé une compagne qui est une merveille absolue, qui est la compagne de ma vie depuis 40 ans et plus. Mais j'adore, ça fera bientôt 5 ans d'ailleurs, mais j'adore la solitude. Alors donc c'est toujours aimer partir des semaines, des mois, et puis on se retrouve, et puis j'adore la solitude. J'étais solitaire enfant, j'étais solitaire, j'avais pas du tout. Actuellement, je n'imagine pas du tout d'être plus de 4 personnes autour d'une table pour un repas par exemple. Ouais. C'est trop de monde, quoi.
Et de toute façon, avec le confinement et tout ce qui se passe, c'est devenu impossible. Il y a quelqu'un que vous avez rencontré aussi, qui est une légende, qui est Bernard Moitessier, qui est un navigateur, qui a quand même gagné la course autour du monde, mais qui l'a gagné en théorie, mais qui n'a pas passé l'arrivée.
Qui aurait sans doute pu la gagner, oui. Mais effectivement, il était très différent des candidats des courses actuelles, quoi, des champions qui sont admirables, comme Loïc Perron, comme plein d'autres, hein, qui sont la Jacques Vabre actuellement et autre chose, quoi. Mais c'était voilà.
Mais on l'appelait le vagabond des mers du Sud. Ouais. Vous l'avez rencontré ?
J'ai rencontré. J'ai eu la chance de l'encontrer dans un endroit insensé, tout au bout de la planète, dans un atoll des îles Cook qui s'appelle Suvarov, où il s'était installé quelque temps. Il avait pris la suite d'un Anglais solitaire qui avait vécu des dizaines d'années. Et il a, j'ai passé 3 jours avec lui dans cette île en tête à tête, quoi. Et il m'a donné les clés pour la vie dans les atolls, la vie dans les îles lointaines, quoi, qui était merveilleuse. Et puis, il écrivait son livre, déjà, qui a eu un succès énorme, Tamata et l'Alliance, qui a eu un très, très gros succès.
Et d'ailleurs, vous aviez songé à faire un livre avec lui sur la navigation?
On avait l'idée en même temps de faire un livre qui comporterait toutes les disciplines qu'il faut maîtriser pour partir en bateau ou en solitaire autour du monde.
Voilà.
Aussi bien la mécanique, la navigation, la cuisine, la santé, tous les domaines à aborder, quoi. Lui, il l'a fait beaucoup plus tard. Son livre est paru à titre posthume. Et moi, c'est un livre que j'ai publié dans les années 80 et qui a été réédité plusieurs fois. Je prévois d'ailleurs de le rééditer encore des années plus tard, qui s'appelle « Mettre les voiles ».
Voilà. Justement, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes arrivé à un moment où les récits de voyage de ce genre, on n'en avait pas beaucoup.
Oh, il y avait une collection, la collection de Jacques Artaud, qui était une très belle collection, avec des tas de navigateurs. Il y avait les récits de Tabarly, des récits de la première course autour du monde, des naufrages, des aventures des jeunes, des poètes, des anciens, des gens, des aventuriers, des casse-cou et des gens prudents. C'était une belle collection.
Oui, mais il y avait personne de connu pour porter ce genre de livre.
Ah ben c'était moins connu. Il y a eu les courses, mais c'est un univers très différent, quoi. J'aime bien. Je suis copain avec plusieurs navigateurs. Je citais Loïc Perron, Tito en Lamazou, Philippe Poupon, etc. Mais j'ai surtout des atomes crochus avec eux parce qu'ils ont tous quelque part un rêve de naviguer en prenant leur temps. Pas d'être en course terrifiante, en tapant sur la mer dure comme la tôle. Non, c'est se balader en douceur, c'est le rêve de beaucoup d'entre eux, et c'est le mien en tout cas, c'est ma vie.
Oui, et votre vie aussi, ça a été les films. Alors ça a démarré par les carnets de l'aventure que vous auriez dû tourner, que vous n'avez pas tourné, qui ne sont pas faits à la télévision, parce que la télévision ne voulait pas de films de vous sur la navigation. Puis ensuite, ça a changé avec la collection Il était une fois.
Voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Jacques Lenné, qui était un ami, qui m'avait filmé pour la première fois aux Maldives en 79, et qui avait proposé un carnet carnet d'aventure. Puis ça ne s'est jamais fait. C'était en projet, ça ne se faisait pas et tout. Et un jour, c'est Thalassa qui est venu me filmer, pour faire un portrait, qui avait un beau portrait, mais j'ai trouvé que ils étaient un peu fonctionnaires.
Oui.
Les journalistes, ils se levaient tard, ils se cassaient pas trop la nanette pour réaliser, quoi. Alors je me disais, ah non, moi j'ai envie de faire quelque chose, de vraiment rendre hommage au pays que je visite, de les visiter en profondeur et de prendre tout mon temps pour filmer en me levant tôt pour avoir la meilleure lumière et tout. C'est comme ça qu'a commencé le premier film en 91. En 91, qui a été qui a été un succès tout de suite, c'était chez Polygram à l'époque, et puis ensuite chez Warner. Au Warner Home Video, j'ai été 30 ans à publier des documentaires chez Warner Home Video, et c'était formidable, quoi. C'était très très bien, j'avais la liberté absolue, j'ai amené le film terminé, il était publié.
Voilà. Et surtout avec un matériel qui s'est amélioré au fil des décennies, c'est-à-dire qu'au départ les caméras n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, Antoine.
Elles étaient très lourdes d'abord, elles étaient encombrantes, les cassettes et tout, et puis elles faisaient des images de bien moins bonne qualité. Maintenant, avec un téléphone... Un smartphone, un iPhone ou autre, eh bien, on fait des images formidables, quoi. Et donc, j'ai choisi de faire des films. Et puis, ça a été une passion pendant des années, quoi. Et c'est toujours le cas. D'ailleurs, vous avez sous les yeux notre livre sur la Nouvelle-Zélande. Je suis actuellement en train de travailler. Là, tantôt que je rentre chez moi. Je suis en train de travailler à plein temps au montage du film correspondant. On avait déjà un film sur la Nouvelle-Zélande, on fait une deuxième partie, et je le présenterai en tournée dans tous les CGR, les cinémas CGR de toute la France, au mois de mars.
Voilà. Oui, parce que vous faites aussi des tournées maintenant, non pas de chansons, mais des tournées de conférences.
Tournées de conférences, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. 20 ans que je fais ça, et c'est merveilleux.
Mais au départ, vous les faisiez dans les salles spécialisées, maintenant c'est dans les cinémas avec projection d'un film. Voilà. C'est quand même une nouveauté.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours une projection d'un film, mais le conférencier arrivait avec son projecteur 16 mm, puis il installait ça, puis il faisait son commentaire. Maintenant, ça a évolué, maintenant les CGR ont des salles formidables, des grandes salles, et c'est toujours impressionnant de voir son film, le film qu'on a réalisé de ses petites mains comme ça, parce que vraiment... Moi, c'est pas des. J'ai jamais été demandé des budgets à des chaînes de télévision. J'ai fait tout à compte d'auteur. J'ai tout fait moi-même, tous les films. Et on a vendu, je sais pas, 1 million et plus de films. Mais c'était une petite entreprise familiale. Je dis toujours en blaguant que lorsque j'ai créé cette entreprise qui s'appelle Il était une fois, vous connaissez le terme, c'est vous qui l'aviez émis pour la première fois. Et lorsque j'ai créé cette entreprise, en l'époque, on était deux dans l'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, on est deux.
Voilà.
ma compagne et moi.
Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Et la Nouvelle-Zélande que vous évoquez, on va, nous, en parler dans quelques instants avec une autre date, le 16 octobre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine, 16 octobre 2021, sortie de Escale en Nouvelle-Zélande, un livre chez Gallimard, un livre avec plein de photos qui font rêver, un livre qui raconte les Nouvelles-Zélandes pour laquelle vous avez eu le coup de foudre, Antoine.
Ah oui, vraiment le coup de foudre. Francette, ma compagne donc, et moi, on a eu le coup de foudre totalement pour la Nouvelle-Zélande.
Il y a des années.
C'est depuis des années. Oui. Ce film, le film que je suis en train de monter, je vous parlais tout à l'heure, là, certains plans ont été tournés en 2005. Mais on y retournait peut-être 10 fois depuis. Et puis 10 fois, et en hiver, en été, au printemps, par tous les climats. C'est pas un pays tropical. Le sud est presque tropical. Et puis, au sud, il y a des glaciers. Il y a des Alpes, le massif des Alpes. Il y a des traditions extraordinaires, les Maoris, et puis ceux qui sont arrivés d'un petit peu de tous les pays. C'est une société multiculturelle qui est assez fascinante, quoi. Où tout le monde s'entend bien avec beaucoup d'artistes. C'est un pays où les femmes ont eu le droit de vote 70 ans avant les Françaises. Oui. Il y a des grands artistes comme Peter Jackson. L'auteur
on va en parler.
Et comme Peter Jackson, et plein d'autres, quoi.
Voilà.
Jane Campion.
Voilà, ce qui est étonnant, c'est que dans votre livre, Escale Nouvelle-Zélande, on voit des photos magnifiques d'un paradis terrestre qu'on ne connaît pas, parce que finalement, la Nouvelle-Zélande, pour le français, et à Sud Radio en particulier, ce sont les All Blacks.
Les All Blacks, c'est ça. Bon, moi, j'ai un petit clin d'œil aux All Blacks dans le livre, mais la Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup... Bon, les All Blacks, c'est très important pour eux, très important. Mais la Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus que ça, quoi. C'est une flore étonnante, la faune, le volcanisme. On avait débarqué en hélicoptère sur un volcan, White Island, au mois de février. Et puis, quelques mois plus tard, il y a eu une éruption où il y a eu une vingtaine de personnes qui ont perdu la vie sur cette île. Il y a des volcans partout dans cette île. Il y a des endroits qui ont été détruits par des volcans au siècle dernier, qui étaient parmi les merveilles du monde, quoi. Mais le pays est d'une en dehors des volcans, le pays est d'une grande douceur. Voilà. Très grande douceur, très magnifique. Magnifique région du nord au sud, très différente les unes des autres.
Alors, vous montrez avec des photos, bien sûr, dont vous êtes l'auteur, que le port qui est parfait, et vous dites que c'est la Nouvelle-Zélande, c'est le paradis des navigateurs et de leurs amis.
Ben, il y a beaucoup de navigateurs dans l'océan Pacifique qui se trouvent avec un problème quand arrive la saison des cyclones, c'est-à-dire l'été de cette saison. Du hémisphère sud, c'est qu'il y a des risques de cyclones. Quoi. Alors, un des lieux où ils vont pour sortir de la zone cyclonique, c'est la Nouvelle-Zélande. Quoi. Et la Nouvelle-Zélande, donc, était très accueillante pour ça. Je me rappelle, on se rappelle toujours avec Francette une anecdote, on arrive en Nouvelle-Zélande et puis on dit, à un moment, il fallait qu'on aille laver du linge, on se fait faire du stop sur le bord de la route, le bord de la plage. Quoi. Et il y a une première voiture s'arrête aussitôt. Et non seulement on nous a accompagnés à une laverie, mais en plus elle nous a attendus pour nous ramener s'il y avait besoin de quoi que ce soit et tout. C'est un pays où les gens ont le temps d'être gentils. La plupart sont très très gentils et c'est un pays très souriant, très très moderne en même temps. C'est pas du tout un pays du tiers-monde, hein. C'est un pays très moderne, très développé, quoi. Ça a des points communs avec l'Australie, comme la langue, les mœurs, etc. Mais la dimension du pays le rend encore plus sympathique, quoi.
Vous dites aussi que c'est un pays avec une population très variée.
Très variée, oui, je disais, c'est multiculturel, les gens s'entendent tous très bien. Et je disais, c'est un pays où les femmes ont eu le droit de vote 70 ans et avant les Françaises. Et depuis, on attend encore ça en France, depuis le début de ce millénaire, de ce siècle, eh bien, la place de Premier ministre, c'est-à-dire le poste suprême en Nouvelle-Zélande, a été occupée beaucoup plus souvent par des femmes que par des hommes, quoi. Comme Jacinda Ardern actuellement, ou Helen Carter, des femmes dont je parle dans le livre, qui ont un grand bon sens et qui ont, en particulier, il y a eu des attentats à Christchurch avec un fou dangereux qui a tué des gens dans une mosquée. Elle a très très bien géré cette chose-là, ce problème-là, avec beaucoup de compassion, beaucoup de douceur et d'intelligence. Et il y a une grande entente des différents groupes. Les Maoris sont fascinants. Les Maoris sont fascinants.
On connaît le nom des Maoris, voilà. Mais on ne sait pas.
Eh ben, ils sont assez fortement mélangé avec les Pakeha, c'est-à-dire les étrangers qui sont arrivés d'Angleterre, de France. Ça a failli être français à un moment, la Nouvelle-Zélande. Mais ils ont beaucoup d'initiatives. On va visiter leur pays, c'est souvent guidé par des, par exemple, le parc Abel Tasman, qui est un des plus beaux de la planète, et parc naturel Abel Tasman. Eh bien, il y a une famille maori qui vous emmène sur des grandes pirogues doubles, qui vous apprend non seulement à manier l'aviron, les pagaies de la pirogue double, mais aussi à respecter le rituel, le chant, des chants solennels avant de se lancer dans ces régions qui sont assez bénies, assez protégées, quoi, qui sont des régions traditionnellement protégées.
Voilà. Vous parlez aussi de la baie d'Abondance, qui est une des merveilles du monde qu'on voit dans ce livre, Antoine.
Bon, la baie d'Abondance est une très grande baie, de très très grande baie du nord de l'île Nord, et c'est là que James Cook est arrivé. On verra tout dans ce film, je raconte toute l'histoire de l'arrivée de James Cook, de Tasman, James Cook et tout. Et dans la baie dans une baie de la côte est de l'île, James Cook était arrivé et avait été chassé par il y avait eu les Maoris, ils l'avaient pas bien accueilli, quoi. Et il était reparti, il cherchait des vivres après une longue traversée, ils avaient rien pu. Donc il avait appelé la baie de pauvreté. Et ensuite, il fait le tour d'un cap et il arrive dans une immense baie aussi, où les gens, là, l'ont très bien accueilli, et il a appelé, du coup, la baie d'Abondance.
Alors, il y a aussi des photos dans ce livre où on vous voit, dans le décor de ces séries mythiques, le Seigneur des Anneaux, Antoine.
Ben oui, c'est le Seigneur des Anneaux, c'était l'auteur est anglais, ça se passait dans une espèce d'Angleterre de rêve, enfin, de légende. Et curieusement, avec les paysages, la beauté des paysages de Nouvelle-Zélande, il y a une espèce de rapprochement entre le monde de Tolkien et la Nouvelle-Zélande, quoi. Ce qui a été cristallisé par le fait que Sir Peter Jackson, qui a été chargé de... On a visité les studios, on a visité toutes sortes de choses qui a été créé par Peter Jackson. Et c'est vrai que là-bas, un des plus grands succès, les lieux qui ont le plus de succès en Nouvelle-Zélande pour le tourisme, ce sont les lieux qui figurent dans les films, quoi. Entre autres, vous voyez en quatrième de couverture du livre, avec Francette, avec ma compagne, on est dans une des maisons de Hobbit, les personnages de... Les personnages de Tolkien, ça, et on est dans un des, c'est pas une maison, c'est un terrier avec des portes rondes, et on, je blague en disant, on va s'installer là, voilà.
Voilà. Mais d'ailleurs, Peter Jackson vient de Nouvelle-Zélande, et il faut savoir que ce décor a été construit un an avant le tournage pour qu'il soit parfait, et il est resté. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, le Seigneur des Anneaux aurait dû être tourné au départ par les Beatles. En 69, ils obtiennent les droits d'adaptation du livre de Tolkien et ils décident de le réaliser. Et ils pensent à Stanley Kubrick pour travailler avec eux. Mais le problème, c'est que le film ne pouvait pas tenir en une fois. Donc, ils ont renoncé à ce projet. Et curieusement, aujourd'hui, la boucle est bouclée puisque Peter Jackson prépare un film sur les Beatles.
Voilà, c'est ça. J'allais vous dire ça parce qu'il sort le 23 ou le 25 novembre, le film, là. Et sur une chaîne en ligne, quoi. Oui. Et c'est un film, j'ai vu les images du film sur les Beatles, là, Get Back, c'est absolument fascinant. Hein. C'est absolument. Je serai devant, à la première heure, je serai en train de regarder ce film de Peter Jackson sur les Beatles.
Alors, vous parliez des femmes que vous évoquez dans ce livre Escale en Nouvelle-Zélande. Il y a Jeanne Campion, primée deux fois au Festival de Cannes.
La leçon de piano. Il y a la chanteuse Lord. Oui. Lord, qui est très, très, très populaire, qui a vendu quelques millions d'albums et qui est très, qui a même fait, qui vient de publier son disque, son nouvel album, où il y a, à côté de l'album, il y a un album entièrement en maori. Dans la langue maori, comme ça. Alors qu'elle n'est pas, elle-même n'est pas maori, mais c'est un pays où, par exemple, il faut que, si on est néo-zélandais, il faut connaître les articles du traité de Waitangi qui avait fait donner le protectorat de l'Angleterre de la Nouvelle-Zélande à l'Angleterre, quoi.
Et il y a une des plus célèbres romancières du monde, Catherine Mansfield, qui est morte d'une tuberculose et qui a vécu ces dernières années en France, sur la Côte d'Azur, qui est d'origine aussi de Nouvelle-Zélande.
D'origine de Wellington également.
Si on veut habiter là-bas, c'est très facile parce que finalement, vous avez rencontré beaucoup de gens qui vivent pendant plusieurs mois, voire à l'année, en Nouvelle-Zélande, Antoine.
Voilà, bon, actuellement, c'est pas très facile puisque, vu l'état du Covid actuellement, on peut toujours pas aller en Nouvelle-Zélande. Ouais. Moi, mon bateau, donc, m'attend en Australie, mais j'ai une hâte. Si tout d'un coup, on me disait là, ça rouvre l'Australie, je foncerai pour retourner en Nouvelle-Zélande, bien sûr, parce que j'adore ça, j'adore ce pays.
Voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens que vous avez croisés, que vous évoquez dans ce livre, qui travaillent, qui vivent en Nouvelle-Zélande.
Voilà, c'est des gens qui ont choisi. Alors, il y a ceux qui... Il y a un jeune, par exemple, d'ailleurs, il se trouve que c'est un petit-fils de Francette, qui a choisi le permis séjour-travail, loisir-travail, quoi. Donc, on peut partir, passer un an, deux éventuellement, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc, il a fait ça. Un autre qui a fait ça, lui, il a créé un vignoble dans la région de Marlborough.
Oui, parce qu'il y a des vignobles.
Voilà, c'est un très grand pays producteur de vin. Hein, ils ont, et ça s'appelle le Clos Henri, celui dont je parle là. Le Clos Henri qui a été créé par des vignerons de France, de la région de Sancerre, et qui ont acheté une propriété là-bas. Et donc, c'est ce garçon qui est là, qui a fait sa vie là-bas. Maintenant, il vit là-bas. Ses filles vivent à la néo-zélandaise complètement.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'elles vont à l'école pieds nus, par exemple, voilà. Ça arrive. c'est un monde assez différent, quoi. Il leur arrive de quitter l'école pieds nus. Ah, j'ai laissé mes chaussures.
Voilà. Et puis, vous avez aussi croisé, et vous le racontez dans ce livre, Antoine, un collectionneur de voitures anciennes qui est assez étonnant.
Ah, il y a pas mal de collectionneurs. Bon, il y a une ville étonnante dont j'avais jamais entendu parler, qui est la capitale art déco du monde entier, pratiquement. C'est une ville qui s'appelle Napier, et qui a été affectée par un très grand tremblement de terre dans les années 30. Et tout le centre de la ville a été entièrement réduit, a été rasé. Et donc, ils ont tout reconstruit dans les années 30, et tout dans le style art déco. Mais avec une telle assiduité que maintenant, on vient du monde entier pour visiter la capitale art déco du monde. Quoi. C'est un peu comparable à Miami Beach, où il y a beaucoup de constructions art déco, des grands hôtels et tout. Mais là, avec le côté bon enfant à l'échelle humaine de la Nouvelle-Zélande. Ce que j'adore en Nouvelle-Zélande, c'est pas un immense truc comme l'Amérique. Quoi. C'est un pays, il y a un petit peu d'anglais, un peu d'américain, un peu de maori, un peu de français, un peu. Mais c'est... mais c'est toujours à dimension humaine.
Voilà. Et j'en reviens à ce collectionneur, parce qu'il y a, il y a une photo étonnante où ce collectionneur, qui a d'ailleurs une combinaison offerte par Jean Alési, une combinaison de pilotes, a des voitures insensées qu'on
ne
peut plus trouver.
Il a des voitures insensées, il a même une traction avant.
Oui.
il a des voitures de rêve. Lui-même, il a des Bentley, des choses comme ça, il a sauvé des tas de voitures de collection.
Vous auriez pu vous installer en Nouvelle-Zélande, Antoine?
J'aurais pu aussi faire une collection de voitures, mais vous rendez compte, l'une des plus grandes hontes de ma vie, j'ai eu une Bentley qui était une voiture qui coûtait pas très cher à l'époque, qui coûtait le prix d'une DS ou un truc comme ça, quoi. J'ai une Bentley de collection hallucinante. Et je suis parti en tournée sur les routes d'Italie, et un jour j'ai coulé une bielle, et que ça, vous imaginez pas ce que j'ai fait. J'ai laissé la voiture sur un parking d'autoroute. J'ai laissé la voiture et je l'ai laissée. Voilà, jamais retourné.
Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette voiture?
J'en sais rien.
C'est extraordinaire.
Quelle vie de fou emmenée dans ces tournées. Hein. C'était incroyable. J'imagine que quelqu'un, un Napolitain ou un Romain, est allé piquer la voiture, mais plus jamais rien. Maintenant, j'aurais encore cette voiture, elle vaudrait une fortune. Elle était belle, elle devait dater des années 30, elle était art déco, elle aussi.
Eh bien, la fortune aujourd'hui, c'est justement toutes les images que vous tournez autour du monde. Il y a ce livre, bientôt le film, et vous allez continuer à voyager. Vous n'allez pas vous arrêter comme ça.
Eh bien, j'ai bien l'intention de voyager. Là, pendant ces deux années, on a voyagé beaucoup par la pensée, mais on a quand même pris la peine. On est allé en Italie, en Corse. Là, je suis allé en Corse il y a quelques semaines avec deux de mes enfants, là, ma fille et mon fils du milieu. On est allé voir le village de mon père, Vivario, dans le centre de la Corse. Et puis, on a rendu visite à beaucoup de copains. On s'est dit, tout d'un coup, tiens, il n'y a pas de tournée en ce moment, on ne peut pas faire de tournée, alors on va faire une tournée sans gala, tournée sans conférence, on va juste faire le tour de la France, rendre visite à des copains, à Limoges, à Poitiers, un peu partout, quoi, dans le Midi.
Et si on veut rêver plus, il y a donc ce livre « Escale Nouvelle-Zélande » chez Gallimard, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des images à faire rêver, et on en a besoin en ce moment.
Oui, c'est un livre, pour moi c'est un rêve. Tout ce pays, c'est un tel coup de foudre, c'est un rêve éveillé. Hein. Je l'adore d'un bout à l'autre, et j'ai essayé de faire tenir, y compris les gens, les animaux, les oiseaux. J'ai été aidé aussi par différentes personnes, là, une photographe animalière qui s'appelle Sabine Bernard, qui a fait des très belle photo, qui raconte un peu son parcours également, et plein d'autres comme ça, plein d'autres personnes, et plein de personnalités de Nouvelle-Zélande. Bien
voilà. Ben, la Nouvelle-Zélande, pour l'instant, c'est ce livre. Les autres pays, on en parlera quand vous reviendrez sur Sud Radio. Voilà. Merci Antoine.
Je serai au Salon Nautique dans quelques jours, Salon Nautique, où je le dédicacerai, et on prendra la tournée avec le film sur la Nouvelle-Zélande, quand je l'aurai monté, c'est-à-dire vers le mois de mars.
Eh ben, on se reverra à ce moment-là.
Merci Jacques, j'étais ravi de passer ces moments avec vous.
Comme d'habitude, merci Antoine. Et les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.